France Culture. Anne Bouillon, bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve pour le deuxième épisode de Ces Avoies Nues. On va parler du long chemin vers le métier d'avocate qui est le vôtre. Aujourd'hui, vous nous expliquiez dans le premier épisode que ça n'était pas une vocation. En fait, vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez faire. Est-ce peut-être à une époque où on pouvait encore, et puis dans un milieu social où on pouvait vous le permettre, vous pouviez vous le permettre en tout cas, vous vous êtes longtemps cherché. Alors, il y a eu un peu la mode, l'envie d'être Madonna. Je rappelle qu'on est dans les années 80, l'arrivée de Madonna. Bon. Mais vous avez commencé par un BTS de commerce international, en disant peut-être des études courtes. Dans la famille, manifestement, parmi les deux sœurs, il y avait... L'intellectuel, c'était pas vous, vous étiez plutôt pratico-pratique, c'est ça ?
C'est ça.
Bon. Et après, il y a eu quand même des études de sciences économiques à la fac d'Aix-en-Provence. En gros, c'était quoi d'avoir 20 ans, 15-20 ans dans les années 80-90 ?
C'était très insouciant. Hein. C'était un peu avant le sida. C'était une époque où... Le chômage n'était pas véritablement une préoccupation. En tout cas, moi, ça ne m'impactait pas particulièrement. Il n'y avait pas cette angoisse de ne pas trouver de travail et de devoir m'insérer sur le marché du travail. Il y avait cette ambition de pouvoir faire quelque chose qui nous rend heureux. Et assez rapidement, moi, ce qui s'est dégagé, c'était faire quelque chose qui ait du sens. C'était pas immédiat. Hein. Vous avez raison de dire que à la sortie du bac, moi, je me rappelle très bien le jour où j'ai eu mon bac. Et j'avais dit à mes parents que, de toute manière, moi, j'avais envie de travailler. J'avais envie d'agir. J'avais envie de faire. J'avais envie d'être dans l'action, pas forcément des études très longues parce que tout ça me semblait assez vain ou j'en voyais pas la finalité. Donc j'avais envie de mouvement et d'action. Il faut dire que j'ai grandi à Avignon dans les années 90, qui est quand même une petite ville de province balayée par le Mistral, avec cet épisode extraordinaire du festival, mais qui a un début et une fin. Mais donc petite ville endormie, et très vite, moi, ce que je voulais, c'était partir. Ma sœur était déjà partie alors qu'elle est plus jeune que moi. Elle avait voulu partir en Allemagne. Elle était partie faire sa classe de première à Cologne, en Allemagne. Moi, au même moment, j'ai dit à mes parents que je partais d'Avignon. Et donc, je suis partie à Paris pour faire ce BTS. Ce qui m'intéressait, c'était non pas le mot commerce, mais international. Et avec l'espoir de pouvoir voyager, ce que j'ai fait, d'ailleurs, y compris avec un certain nombre de stages. Je suis partie à Londres, je suis partie au Portugal. Et puis... Évidemment, la maturité aidant, au bout de 2 ans d'études, je me suis dit que j'allais pas m'arrêter là. Et donc, j'ai réengagé des études d'administration économique et sociale à Aix-en-Provence sans trop savoir pourquoi. J'ai obtenu mon diplôme et puis j'ai fait à nouveau une maîtrise en commerce international. Parce que je savais pas tellement, encore une fois, les choses étaient imprécises. Il y avait toujours cet appel de l'ailleurs. Et ça a commencé à se décanter comme ça à ce moment-là, notamment à la faveur d'un intervenant qui est venu nous parler du Liban, qui nous a dit à quel point le Liban avait souffert des années de guerre qu'il venait de traverser, et nous a indiqué comme ça à toute une classe de jeunes ados qu'on pouvait partir au Liban pour aider à la reconstruction du pays. Et là, enfin moi je crois vraiment à ça, hein, aux trucs qu'on chope au vol, sur lesquels on s'engage et qui change le cours d'une vie. Et je suis allée le voir à la fin du cours et il m'a dit « Mais oui, il y a une association qui envoie des jeunes volontaires au Liban et voilà les coordonnées. » Et donc j'en ai parlé autour de moi, j'ai monté un projet, j'ai financé mon départ, je suis partie au Liban. Et pendant 2 mois, j'ai travaillé dans une école auprès de gamins dans la banlieue de Beyrouth et auprès d'adultes handicapés qui avaient été pris en charge par une association du temps de la guerre. Et là, voilà, là, les choses s'alignaient.
Le sens, l'action, le
voyage, la rencontre, l'altérité.
L'ailleurs.
Et puis, on était dans les années Kouchner, dans les années Médecins sans frontières. Tout ça avait...
Tout début des années 90.
Exactement. Hein, ça avait une espèce d'appel très nimbé d'aventure et de sens. Et je suis rentrée et j'ai fait, à Aix-en-Provence, j'ai terminé mon cursus par un DESS, qu'on appelait encore à l'époque un DESS.
L'équivalent du master.
Absolument. en droit humanitaire. Le droit humanitaire, c'est vraiment une niche du droit, hein, parce que c'est ce qu'on appelle les conventions de Genève et les protocoles additionnels, c'est droit de la guerre. C'est comment est-ce qu'on conduit les hostilités armées. C'est un droit dont on parle beaucoup actuellement. Mais voilà, c'est vraiment une niche juridique. Et ce DESS réunissait des professionnels de l'humanitaire, des médecins, des logisticiens, des étudiants en droit. Et moi, j'ai convaincu, ça m'arrive souvent de convaincre la directrice de me donner ma chance et de m'y accueillir. Et voilà, là, ça a été la révélation. Il était évident que je rencontrais là tout ce qui était intéressant pour moi, l'engagement, le sens de l'ailleurs, le voyage. Et je suis partie. Et je suis partie en Bosnie, puisque les accords de Dayton qui mettaient fin au conflit dans les Balkans venaient d'être signés. Et j'ai réalisé une première mission humanitaire, puis une deuxième. Puis j'ai vécu plusieurs années en Bosnie. Et c'est à partir de là que ma rencontre avec le métier d'avocate s'est faite, parce que je travaillais dans une organisation internationale.
Bon, je résume, L'OSCE.
L'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Et là... pareil, je suis rentrée par la fenêtre, hein, parce que c'est une organisation diplomatique et normalement elle n'emploie que des diplomates, mais il s'avère que j'ai quitté l'association avec laquelle j'étais partie en Bosnie et j'avais des amis sur place et je suis restée sur place et j'ai réussi à être engagée à l'OSCE dans le département des droits de l'homme.
Pour y faire quoi ?
Alors précisément pour travailler sur les processus électoraux et donc écrire... C'est pas moi qui écrivais les lois, mais évidemment, mais contribuer à la rédaction des lois électorales et la mise en place des processus devant conduire à un processus de démocratisation. La guerre en Bosnie a eu ceci de particulier qu'elle a, c'était une guerre d'épuration ethnique, alors que les zones géographiques étaient mixées entre les Serbes, les Croates et les musulmans. Après la guerre, nous avions des zones ethniquement pures, si je puis dire, et il fallait permettre aux gens qui avaient été déplacés de leur village d'origine de pouvoir voter dans le village dont ils avaient été déplacés. Et tout ça, c'était le mandat de l'OSCE que de mettre en place des processus électoraux qui permettaient de recréer de la pluralité ethnique au sein des gouvernements municipaux, hein, des assemblées électorales municipales. Et donc, je travaillais là-dedans et j'étais l'assistante du chef du département des droits de l'homme, Craig, un avocat canadien, exactement, anglophone. Je travaillais en anglais. C'est drôle parce que j'ai présenté ma candidature. Franchement, mon niveau d'anglais, il était assez balbutiant. Et tout le monde pensait que j'étais extrêmement calme au départ. En fait, c'est pas que j'étais calme, c'est que je comprenais pas grand-chose à ce qui se disait. Mais c'est pas grave. Et nécessité faisant loi, j'ai appris l'anglais très vite. Et voilà. Et pendant 2 ans, j'ai vécu la reconstruction de ce pays. Et j'y ai rencontré des gens absolument extraordinaires qui sont encore mes amis aujourd'hui. Et beaucoup d'avocats. Beaucoup d'avocats, des avocats australiens, allemands, canadiens, britanniques. Et j'ai commencé à travailler le droit et à avoir cette expérience du pouvoir du droit dans la vie des gens et dans la vraie vie. Et j'ai pu mettre en lien comme ça ce que j'avais appris de manière théorique et ce que ça pouvait devenir sur le terrain. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience de la force du droit et aussi du fait qu'il y avait des avocats, puisque je n'en avais jamais rencontré auparavant. Et c'est mon boss qui m'a dit « Mais tes raisonnements juridiques sont pertinents, c'est pas mal ce que tu fais. » Et j'ai demandé à ma mère de se renseigner. À l'époque, il y avait pas beaucoup on avait moins accès à Internet que maintenant. Et elle m'a dit « Mais oui, j'ai pris attache avec la fac, tu peux passer le concours d'avocate pour rentrer à l'école du barreau. Mais évidemment, il faut que tu rentres en France et il faut que tu repasses toutes les matières juridiques parce que... j'avais pas de maîtrise en droit à proprement parler, si ce n'est ce DESS en droit humanitaire. Alors c'est ce que j'ai fait. Au bout de 2 ans à Sarajevo, j'ai pris ma voiture et j'ai retraversé le sud de l'Europe et je me suis installée à Marseille pour préparer le concours.
Au centre de formation des avocats de Marseille pour pouvoir préparer l'examen d'entrée dans ce centre. Mais ça veut dire, Anne Bouillon, qu'à ce moment-là, pendant ces 2 ans-là, le droit a pris le dessus sur l'humanitaire qui était peut-être un peu plus ce que vous aviez envie de faire.
Les deux étaient profondément entremêlés. Moi, je me suis dit que devenir avocate et travailler le droit international public, la codification du droit, était une bonne manière de continuer à travailler à l'étranger. À l'époque, les statuts de la Cour pénale internationale venaient d'être ratifiés. Et donc, on avait pour la première fois une juridiction internationale qui avait compétence universelle, justement pour appliquer les conventions de Genève et le droit de la guerre et aller poursuivre et juger ceux qui se rendaient coupables de violation de ce droit-là. Il fallait mettre les droits internes en conformité avec le statut de la Cour pénale internationale. C'était évidemment ce que je voulais faire. Et donc, là aussi, tout ça était extrêmement cohérent. Il y avait le droit, il y avait le droit international et puis le sentiment de justice et d'utilité. Mais je crois que c'est vraiment à la faveur, vos questions me font réfléchir, et je crois que c'est à la faveur du constat de ce que j'ai fait à Sarajevo. J'ai vu des choses atroces à Sarajevo. J'ai vu des charniers, j'allais à Srebrenica, qui a été un massacre absolu de toute la population, des femmes, des enfants massacrés dans la forêt. J'ai vu à quel point les criminels de guerre pouvaient être...
Des hommes, hein, beaucoup d'hommes aussi qui ont été massacrés à Srebrenica.
Parfois avec l'assistance zélée de certaines femmes, hein, mais étaient en totale impunité. Ça m'a renvoyé à ma propre histoire, dont nous parlions auparavant. Et voilà, les notions de besoin de justice, de besoin de réparation, elles sont nées là aussi, avec ce constat de la force du droit. Et cette rencontre presque fortuite avec le métier d'avocat, en réalité, est venue faire écho à tout un tas d'expériences passées et est venue là aussi mettre en cohérence tout un parcours personnel.
Donc vous intégrez le centre de formation de Marseille.
Ouais, je travaille avant. Hein.
Ouais, bien sûr. Beaucoup de travail, hein, parce que c'est vraiment très difficile de préparer l'examen d'entrée. Bon, vous en sortez major 2 ans plus tard.
Ouais.
Vous prêtez serment en 2001 à Aix-en-Provence, vous avez 28 ans à ce moment-là,
c'est
Anne
ça.
Bouillon. Est-ce que, au cours de ces années de préparation puis de formation, comme il a fallu rattraper cette connaissance aussi du droit, est-ce que c'est aussi à ces moments-là que vous allez chercher, je ne sais pas, des figures d'avocats? Alors, vous évoquiez Robert Badinter dans l'émission précédente, puisque 1981, on s'en souvient, mais... D'ailleurs, vous avez aussi évoqué certaines Gisèle, je pense que c'est Gisèle Halimi. Bon voilà, Robert Badinter, Gisèle Halimi, Henri Leclerc, est-ce que c'est des figures qui prennent beaucoup de sens à ce moment-là ou c'est beaucoup plus tard que les modèles d'avocats sont venus dans votre formation?
Alors, au moment où je prépare le concours, c'est véritablement avec l'idée de repartir à l'étranger et donc de pas exercer dans un cabinet et devant les juridictions françaises. Hein. C'est mon objectif, c'est de partir. À l'époque, Bernard Kouchner est nommé administrateur du Kosovo. Moi, j'ai l'espoir de partir en mission à cet endroit-là. Bon, finalement, ça se fait pas pour tout un tas de raisons. Je candidate auprès d'une association qui s'appelle Human Rights Watch à New York. Je suis shortlistée, c'est-à-dire retenue. Il y a 2 candidats pour partir en Afrique de l'Ouest, travailler sur la Cour pénale internationale. Ça se fait pas non plus. Et donc, tout ça, c'est des hasards qui font des aiguillages comme ça, des embranchements que l'on prend ou que l'on prend pas et qui nous conduisent là où on est. Les modèles d'avocats, il y a un modèle d'avocat, c'est d'abord Danny Cohen, qui est l'avocat, je toque à la porte de son cabinet à Marseille. Lui, il est connu pour être un avocat militant, engagé, juif, communiste, engagé au sein du syndicat des avocats de France, qui est un syndicat qui m'a beaucoup formé et beaucoup appris de ce que pouvait être un avocat engagé dans la cité au-delà du prétoire, ou plus exactement comment le droit, là aussi, peut être un instrument de pour faire une différence et... travailler sur les questions d'égalité et de protection des libertés.
Avocat des demandeurs d'asile, voilà, des laissés pour compte, des salariés licenciés.
Exactement, des marins abandonnés. Voilà, il a toujours cette ligne-là, Danny Cohen, de vouloir être du côté des plus vulnérables, des plus fragiles. Il se bat de manière redoutablement féroce pour les causes qu'il embrasse. Et donc, il me montre ce chemin d'avocat engagé pour une, voire des causes. Mais d'abord, avocat engagé pour la défense de la défense et la défense des libertés. Et lui et son associé de l'époque me montrent ça. Et puis, je rencontre le syndicat des avocats de France, dont je parlais à l'instant, avec tous ces avocats qui sont énervés, agités, en colère et en même temps extrêmement joyeux et dynamiques. Et puis, la rencontre avec mon mari.
Franck Bozek.
C'est ça. Que je
pénaliste,
rencontre.
Pénaliste.
très doué, très, très talentueux, que je rencontre comme ça en 2002 à Marseille, qui lui me conduira à Nantes, mais c'est une autre histoire. Mais, et là, c'est là où je fais la rencontre d'Henri Leclerc, et puis de Badinter, et de Gisèle Halimi, qui occupe une place singulière. Ma rencontre avec Gisèle Halimi, c'est moi qui suis allée chercher, en fait, Gisèle Halimi. C'est moi qui... On ne m'a pas tout de suite dit « voilà ce qu'a fait Gisèle Halimi ». Je pense qu'elle a... Elle occupait une place à part, y compris au sein des avocats engagés. Et je crois que les avocates féministes, je fais cette analyse-là, qui est peut-être erronée, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, on occupe aussi une place singulière, même dans le champ des avocats engagés. Le féminisme est encore quelque chose qui peut irriter même les gens de gauche, même les gens syndiqués, et qui n'est pas évident pour tout le monde et tout le temps. Mais bon, bref, je referme la parenthèse. En tout cas, elle, je suis allée la chercher, et évidemment, elle représente à mes yeux l'incarnation de l'avocate qui se sert de sa robe, des mots et de la loi pour venir servir avec tellement de talent et d'efficacité ce combat pour l'égalité que... Elle est incontournable en ce qui me concerne.
Mais quand vous dites, Anne Bouillon, que vous êtes allée la chercher, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que j'ai lu ses livres. Ça veut dire que j'ai lu tout ce qui concerne le procès d'Aix-en-Provence, que j'ai lu tout ce qui concerne le procès de Bobigny. Je me suis intéressée à l'association qu'elle a créée, Choisir la cause des femmes, avec Simone de Beauvoir. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai été... Je vois des bouquins d'elle derrière vous. Ce que je veux dire par là, c'est la manière qu'elle a eue de convoquer dans les prétoires presque la société tout entière sur la question du viol, sur la question de l'avortement, m'a profondément inspirée. C'est-à-dire qu'elle dépasse le simple cas qui nous est donné à juger dans un dossier, et elle vient interpeller et le juge et la société sur l'inéquité du droit, sur la condition des femmes, sur les structures sociales de notre société. Et donc, on parlait de Mazan dans l'émission précédente. C'est exactement ce qui a été fait aussi pour ce procès-là, hein, où finalement, ce qui nous est donné à voir, c'est ce que nous sommes comme société tout entière, au-delà du simple cas qui est donné à juger. Voilà, elle a élargi, ouvert les portes des tribunaux, elle a élargi la focale, et moi, c'est une méthode de défense qui m'a profondément inspirée.
On va venir au féminisme, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une ellipse. Arrêtons-nous d'abord un temps sur ce que vous avez fait, vous, au sein du cabinet d'Annie Cohen, c'est-à-dire défendre notamment des femmes domestiques.
Ouais.
Étrangère.
Ouais.
Racontez-nous.
J'ai pas oublié son visage et j'ai pas oublié sa silhouette. Elle était frêle avec de grands cheveux noirs qui lui tombaient dans le dos. Et il y avait une association à Marseille qui défendait qui exfiltrait même les petites bonnes. C'est un phénomène bien connu sur le pourtour méditerranéen où des jeunes filles sont transportées et puis exploitées dans des familles, mais ça peut être des familles modestes, hein, qui ont à leur disposition une jeune fille à qui on prend ses papiers, qui n'est pas rémunérée et qui sert à faire le ménage, la cuisine, et qui peut éventuellement servir à l'éducation sexuelle du fils aîné lorsque besoin s'en fait sentir. Et donc, cette association qui s'appelait Esclavage Tolérance Zéro, à Marseille, me contacte un jour pour défendre une jeune fille qui a été exfiltrée de sa famille d'accueil, entre guillemets, et qui a déposé plainte. Et elle a déposé plainte parce qu'elle a subi un viol de la part du fils aîné. Et là, je pense que c'est le point de bascule pour elle, où elle a cherché de l'aide et elle a pu être aidée. Et donc, je prends en charge la défense de cette jeune fille qui est dans un état de dénuement extrêmement important. Je me rappelle qu'elle avait une paire de godasses qui était trouées et elle avait vraiment pas grand-chose. Et c'est évidemment pas mon boulot d'avocate, mais je me rappelle que je suis allée lui acheter une paire de baskets parce que je pouvais le faire et que ça me paraissait important. Et on a noué cette relation de grande proximité toutes les deux. Je ne sais absolument pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et ça, c'est aussi une spécificité de ma fonction d'avocate. C'est-à-dire que j'ai une relation puissante avec les femmes que je défends et que j'accompagne. Mais c'est une relation qui a un début et qui a une fin. Et c'est très bien comme ça. Et l'espace du procès et l'espace de la défense, on va être très en miroir l'une et l'autre, très en confiance. Et puis, ça s'arrête. Encore une fois, ça, c'est pas un regret que j'exprime, hein, c'est comme ça que ça doit être, mais elle, voilà, elle a fait son chemin plus tard. Et je crois que elle a été vraiment déterminante dans mon appréhension de la situation des femmes, de certaines femmes, et puis, puisque vous m'interrogez sur mon entrée en féminisme, ça procède de plusieurs choses, comme à chaque fois. La première chose, c'est, on le dit, hein, des femmes que je défends, c'est-à-dire que j'en reçois beaucoup, j'en ai toujours reçu énormément dans mon cabinet, et des femmes qui sont extrêmement différentes, mais qui n'ont vraiment pas grand-chose à voir entre elles, de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les religions, vraiment qui ne partagent rien d'autre, si ce n'est l'expérience commune de la violence des hommes. Ça peut être un instant, une agression, ça peut être toute une vie, et je me rappelle vraiment de cette femme qui a l'âge de ma mère et qui a vécu toute une vie entière sous le joug de son mari et qui lui a fait subir dans le silence, dans son silence à elle, des il se levait le matin, il lui disait « t'es toujours pas morte, vieille merde » et il lui adressait plus la parole de la journée. Et puis, évidemment, lorsque il fallait, il la frappait et elle ne disait rien. Elle a eu deux fils qui n'ont jamais réagi. Et en fait, ce sont les voisins qui ont fini par appeler au secours le jour où il a cassé le nez parce que la soupe était froide et qu'elle est sortie dans son jardin avec le visage en sang. Donc, elle a fait l'expérience de la violence conjugale toute sa vie. D'autres, c'est à un moment dans leur existence, mais le fil rouge, le fil conducteur entre toutes ces femmes, c'est ça. Et ça a mis du temps avant que je fasse le lien, peut-être que je ne suis pas très rapide, mais voilà, c'est la première chose qui m'est apparue comme incontournable, c'est que toutes ces femmes, et finalement je crois nous toutes, faisons à un moment donné l'expérience de cette violence-là. Et puis l'autre élément déclenchant, c'est ce dont nous parlions aussi dans la première émission, qui sont les expériences que moi j'ai pu faire.
En particulier un début de carrière émaillé de moments un peu douloureux, même au sein du cabinet de Marseille.
Même au sein du syndicat des avocats de France, dont je parlais tout à l'heure, des expériences de remarques sexistes,
de gestes déplacés,
de comportements pour le moins inadaptés. Et dans mon expérience d'avocate, j'ai vécu des moments douloureux, hein, où on me renvoyait à ma condition de femme. Et je crois que j'en avais été très préservée auparavant, ou alors je ne mettais pas les choses en lien. Mais voilà, on pouvait me renvoyer au fait que je n'étais qu'une femme avocate et donc voilà qu'il fallait que je reste à ma place. Ou je me rappelle d'un vieux bâtonnier qui à Marseille avait les doigts crochus et qui avait tendance à gripper les chevelures des jeunes avocates dans les couloirs du palais de justice, et on se passait le mot entre nous. J'ai rencontré une consoeur marseillaise il n'y a pas très longtemps qui m'a dit: je vois exactement de qui tu parles lorsque tu parles de ça, parce qu'elle a évidemment subi la même chose. Et on le faisait toutes, et en fait personne ne venait mettre un coup d'arrêt à ces comportements-là. C'était toléré, c'était presque de l'impondérable, c'est comme ça, et voilà. Donc la méthode pour l'éviter, c'était de frôler les murs, vous voyez, c'était pas de lui dire « je t'interdis de me toucher », c'était de l'éviter, de nous aider entre nous pour l'éviter. Mais c'est anecdotique, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai vécu comme ça des comportements sexistes qui, parce que je recevais aussi des femmes, et c'est ces deux mouvements-là qui m'ont donné une conscience aiguë, presque incontournable, de la condition des femmes et de la nécessité de s'engager du côté du féminisme.
Vous parlez même, Anne Bouillon, de votre venue au monde féministe avec un moment fondateur. J'aimerais bien que vous nous le racontiez, ce moment où, justement, au palais de justice, alors de Nantes, parce que vous êtes allée vous installer à Nantes avec votre mari Franck Bozek, vous avez ouvert votre propre cabinet spécialisé en droit des femmes. Et donc, vous venez d'obtenir la libération d'un jeune homme que vous défendiez, et il ne sort pas des geôles. Donc vous faites le plancton devant un bureau qui reste porte fermée. Je vous laisse raconter la suite.
Oui, c'était une expérience là aussi, un moment fondateur. Le tribunal vient de libérer ce petit délinquant et il sort pas des geôles. Et je m'inquiète de son absence. Le policier me dit que c'est le procureur de la République qui demande à ce qu'il sorte pas parce que sans doute d'autres sanctions, d'autres peines vont être mises à exécution. Donc on le libère pas. Je monte dans les étages du palais de justice. J'arrive devant le bureau où des procureurs sont là en train de traiter des affaires en temps réel. Je toque, personne m'ouvre. Je toque un peu plus fort, personne m'ouvre. J'entrouvre la porte, je vois le procureur qui est en charge du dossier, qui m'ignore ostensiblement. Je gigote d'un pied sur l'autre, je souffle, je manifeste ma présence et mon impatience. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il ne m'adresse pas la parole, qu'il enlève son casque, parce qu'il avait, vous savez, ce casque téléphonique, ce micro devant sa bouche. Et il se lève, il pousse son fauteuil à roulettes, il franchit les quelques mètres qui nous séparent. Et il m'agrippe par le bras. Je suis en robe d'avocate. Hein. Ma fonction, il n'y a aucune ambiguïté possible. Et puis, il sait qui je suis. Il m'agrippe par le bras, il ouvre la porte derrière moi et il me pousse en couloir. Et il referme la porte. Je vous le raconte, je sens encore ses doigts crochetés dans mon biceps gauche. Et moi, je reste sans voix. Sans voix. Je suis stupéfaite, sidérée de l'audace qui est la sienne. Enfin, l'audace, c'est même pas le bon mot, de la violence qui vient de m'être assénée, là, pour le coup, et de ce qu'il se soit cru autorisé à me faire ça. Et ce que je me dis, en plus exactement ce que me dit Franck Boisec, que j'appelle à ce moment-là en larmes, il me dit, mais si ça avait été moi, jamais il aurait fait ça. Et c'est tellement vrai, en fait. Je me dis que si j'avais été un homme, il m'aurait jamais fait ça. S'il avait été une femme, il m'aurait jamais fait ça. Et qu'il ne me fait ça que parce qu'il est un homme et que je suis une femme jeune et qu'il se sent légitime à porter atteinte à mon intégrité physique. À l'époque, la bâtonnière de Nantes, c'est la deuxième bâtonnière dans l'histoire du barreau de Nantes, donc il n'y en a pas eu beaucoup. C'est Catherine Lesage que j'appelle et qui me dit « ne t'inquiète pas, on va régler cette question ». L'affaire remonte jusqu'à la chancellerie et finalement, on me demande de pas faire de vagues. Ce procureur de la République me reçoit, me paye un café à la machine à café, me présente jamais d'excuses. J'en demande pas d'ailleurs. Mais voilà, on décide de clore l'incident. Mais oui, vous avez raison, c'est ma naissance au féminisme, parce que là, je me dis, jamais plus, je n'accepterai ça. Et ça, ça a une raison, c'est la domination masculine et c'est le système patriarcal. Et ça, c'est ce que je vais combattre.
Et là, l'avocate pénaliste en droit des femmes est née. Et c'est ce que nous verrons demain, votre travail quotidien. Merci Anne Bouillon.
Merci.
À suivre l'épisode 3. Avocate, pénaliste, en droit des femmes. C'était À Voix Nue avec Anne Bouillon, réalisation Anne Pérez-Franchini, prise de son Geoffrey Marianne, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.